et sur France Inter. Il est 19h. On était à deux doigts. Hélène Philly, bonsoir.
Bonsoir à tous. Les magistrats souffrent de cadences infernales, d'une justice qui fait mal son travail. Ils sont plus de 3000, un tiers de la profession à le dire ce soir dans une tribune un peu plus d'un mois après l'ouverture des états généraux de la justice. Des revendications multiples en Martinique et en Guadeloupe et des heurts encore la nuit dernière, échanges de tirs avec les forces de l'ordre. Nous ferons le point alors que les chiffres de l'épidémie de Covid grimpent en flèche. 30 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures, 6 000 classes fermées, c'est un record depuis septembre. Le gouvernement prépare sa réponse. Dans l'actualité aussi, la condamnation d'un supporter qui a jeté une bouteille sur Dimitri Payet dimanche soir, 6 mois de prison avec sursis. Les États-Unis puisent dans leur stock de pétrole pour faire baisser le prix à la pompe. La victoire en volant de Franck Hamas et Charles Caudrelier dans la Transat Jacques Vabre. Et puis au cinéma cette semaine, L'Événement, un film haletant et militant sur un avortement clandestin dans la France des années 60. Lion d'or à la dernière Mostra de Venise. Et au téléphone sonne Fabienne.
Eh bien ce soir, Hélène, on s'arrête sur ce chiffre issu d'une grande enquête sur de l'Université de Lorraine et de la London School of Economics. 84% des Français croient en la science. Ça paraît presque contradictoire quand on entend le bruit de la rue et même des fois quand on écoute le téléphone sonne. Les Français et la science, épreuve de confiance et défiance, grandeur nature avec le Covid. On en parle ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter. Contre une justice qui n'écoute pas, qui chronomètre tout, plus de 3000 magistrats signent donc cette tribune, publiée ce soir sur le site du journal Le Monde. 3000 magistrats, c'est un tiers de la profession, c'est rarissime. Ils y dépeignent une justice qui maltraite les justiciables et ceux qui œuvrent à son fonctionnement. Bonsoir Laurélie Carrive.
Bonsoir.
C'est un drame, le suicide d'une collègue qui fait éclater leur colère.
Oui, celui de Charlotte, 29 ans, jeune magistrate en fonction de depuis 2 ans dans le Nord et le Pas-de-Calais, elle s'est donné la mort le 23 août dernier. Un électrochoc pour ses collègues, car Charlotte n'est pas un cas isolé, martèle la tribune publiée ce soir. Son éthique professionnelle s'est heurtée à la violence du fonctionnement de notre institution. Les auteurs, qui expliquent agir hors cadre syndical, évoquent des arrêts maladie qui se multiplient, décrivent des magistrats en souffrance, débordés par le nombre de dossiers à traiter, qu'ils soient juges aux affaires familiales, juges des enfants, juges correctionnels, et confrontés à un dilemme. Juger vite et mal ou prendre le temps de juger bien, mais dans des délais inacceptables. À en croire le nombre de signataires, 3000 magistrats, une centaine de greffiers, le texte vise juste. Albertine Munoz, juge d'application des peines à Bobigny, fait partie des 9 rédacteurs et rédactrices de cette tribune.
Si un tiers du corps se reconnaît dans les constats qu'on a faits, c'est que il y a un problème massif. C'est pas le problème d'un tribunal, c'est pas le problème d'une cour d'appel, c'est pas le problème d'un magistrat ou d'un greffier. C'est un problème général. Nous, on a le sentiment de rendre une justice qui n'est pas là pour écouter, qui raisonne uniquement en chiffres, qui veut tout chronométrer et tout comptabiliser. Elle perd tout sens, mais que ce soit pour nous ou pour le justiciable.
Car c'est bien le justiciable qui y perd en bout de chaîne. Nous comprenons que personne n'ait plus confiance en la justice que nous rendons, écrivent d'ailleurs les auteurs du texte, qui espèrent que leur cri d'alarme sera entendu notamment dans le cadre des états généraux de la justice.
Qui se sont ouverts il y a un peu plus d'un mois. Merci beaucoup Laurélie Carrive. Les magistrats de Lorient, d'ailleurs, viennent de voter à l'unanimité contre leur participation à cet exercice qu'ils jugent inutile et inefficace.
Les troubles, Hélène, persistent dans les Antilles.
En Martinique, hier soir, les forces de l'ordre ont été visées par des tirs alors qu'elles éteignaient des feux de poubelle. Il n'y a pas eu de blessés. Bonsoir Emmanuel Leclerc.
Bonsoir.
Est-ce qu'on en sait un peu plus sur les circonstances?
Eh bien, écoutez, d'abord à Fort-de-France où les policiers racontent effectivement être tombés dans un guet-apens malheureusement classique. Les pompiers sont appelés pour un feu de poubelle, vous l'avez dit. Les policiers interviennent en soutien et sont pris à partie. Mais là, la différence, c'est qu'ils se font tirer dessus au fusil de chasse, a priori du calibre 12 et 8. Une voiture de patrouille a été criblée d'impact, 5 au total, dont certains au niveau de la portière. C'est clairement une tentative d'assassinat, dénoncent les syndicats de police, pour qui il n'aurait pas fallu grand-chose pour qu'il y ait des morts. Le parquet de Fort-de-France a ouvert cet après-midi une enquête pour tentative de meurtre.
Vous nous parlez aussi d'un autre incident grave en Guadeloupe. Cette fois, le raid a été pris à partie la nuit dernière.
Oui, alors là, ça s'est passé en 2 temps. Dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre, tout près du cimetière, à 20h30, des gendarmes mobiles essuient 3 tirs, a priori tuerie, un tireur isolé qui s'est enfui. Une heure plus tard, dans le même quartier, là, c'est effectivement le raid qui essuie des coups de feu. Cette fois, ce sont une dizaine d'individus qui leur tirent dessus. Les policiers de l'unité d'intervention d'élite répliquent. Et vu la nature de la détonation qu'ont entendu les voisins, eh bien, c'était une réplique à l'arme lourde avec leur G36, leur fusil d'assaut. Il n'y a pas eu de blessés lors de cet accrochage.
Merci beaucoup pour ces précisions. Des incidents qui semblent assez isolés dans un cas comme dans l'autre. On rejoint justement en Guadeloupe nos envoyés spéciaux Marc Garvenès et Yann Gallic. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes sur place, près de Pointe-à-Pitre. Est-ce que vous ressentez cette tension? Comment se sont passées les dernières heures?
Eh bien, malgré ces incidents avec le raid, il n'y a pas eu de pillage ou d'émeute. La nuit dernière a été plus calme que les précédentes, hormis quelques tentatives de cambriolage et quelques heurts sur certains barrages, précise la préfecture de Guadeloupe. Les forces de l'ordre continuent à dégager les routes, nous l'avons constaté, mais les déplacements restent difficiles, car les principaux axes de l'archipel sont toujours bloqués par des barrages, certains désertés, d'autres encore tenus par des manifestants, comme Jordan, un jeune chômeur de 26 ans.
On laisse passer que les infirmiers, les ambulanciers, les pompiers et les gens qui travaillent au CHU.
Qu'est-ce que vous espérez de ce mouvement avec ces barrages?
Je suis contre l'obligation vaccinale. En Martinique, ça a été repoussé jusqu'au 31 décembre. Pourquoi pas ici? Repoussons le vaccin en Guadeloupe. À part l'obligation, il y a de la colère parce que le gaz va l'augmenter. Le gaz, n'en parlons pas. Et les produits alimentaires, avant c'était cher, maintenant c'est encore plus cher. Par contre, le salaire, ça augmente pas.
À cause de ces barrages routiers, les écoles sont encore fermées aujourd'hui, ainsi que les bureaux de poste. La collecte des ordures ménagères est également très perturbée dans plusieurs communes et les files d'attente s'allongent devant les stations-service qui ont du mal à être ravitaillées. Face à une possible pénurie, le préfet de Guadeloupe pourrait limiter la vente de carburant dans les prochains jours.
Yann Gallic en direct de Sainte-Anne, juste à côté de Pointe-à-Pitre avec Marc Garvenès pour cette mobilisation aux revendications multiples, on l'a compris. Le gouvernement fait ce geste ce soir, proposer des vaccins sans ARN messager aux soignants. Jusqu'ici, c'était Pfizer essentiellement. Et puis, une instance de dialogue va être créée pour accompagner et convaincre individuellement les professionnels soumis à l'obligation vaccinale. Ça n'a pas empêché le ministre des Outre-mer d'être bousculé à l'Assemblée cet après-midi. Sébastien Lecornu, à qui l'opposition reproche de ne pas se rendre sur place. On va y aller, répond-il, et discuter de ces autres sujets qui préoccupent la population, comme l'accès à l'eau potable et la relance économique. Répondre à la colère dans les Antilles et parer au plus pressé face à la reprise épidémique. C'est le double enjeu du moment pour l'exécutif. L'OMS redoute non plus 500 mais 700 000 morts supplémentaires en Europe d'ici le printemps à cause du Covid. En France, 30 000 nouveaux cas ces dernières 24 heures. Le taux d'incidence augmente vite. Plus de 250 cas pour 100 000 habitants dans plusieurs départements. Il y a un an, cela justifiait couvre-feu et fermeture de restaurants. Mais il ne faut pas s'attendre à ça demain, à l'issue du Conseil de défense sanitaire. Bonsoir Yael Gauz.
Bonsoir Hélène.
En tout cas, pas dans l'immédiat.
Au ministère de la Santé, on fait la distinction entre crise sanitaire et reprise épidémique. Il y a la reprise, la fulgurance du Delta, il n'y a pas la crise. Mais comme à chaque vague, vous avez un décalage de 2 semaines entre les contaminations et leurs effets à l'hôpital. D'où la prudence, la suite reste imprévisible, m'a-t-on expliqué. La vague qui a explosé à l'Est démarre à l'Ouest de l'Europe sans qu'on sache jusqu'où elle va monter. Quand on se compare, me disait un conseiller, on se console, la France a une très bonne couverture vaccinale, on a le pass, l'obligation pour les soignants, ce que les Allemands, aujourd'hui en grande difficulté, n'ont pas fait. Donc demain, tout l'enjeu sera de pousser au maximum cet avantage avec la 3e dose pour tous les adultes, plus vite, mais quand, c'est ça qui sera tranché. Discuter aussi le retour du masque en intérieur. Exclu en revanche, le télétravail, les jauges, les restrictions de circulation, exclu tant que l'hôpital tient le choc. C'est lui le juge de paix. L'afflux de patients Covid en réa, le vaccin diminue le risque par 12. La campagne, les meetings seront-ils perturbés? Il y en a à l'appel la semaine prochaine. Tout est maintenu, mais forcément suspendu au caprice du Delta, 3 fois plus contagieux que sa souche initiale.
Yael Gauz, chef du service politique de France Inter, reste aussi plusieurs questions. Les tests, ils sont nombreux dans l'opposition. Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Michel Barnier notamment, a réclamé le retour de la gratuité complète. Aujourd'hui, il faut encore une ordonnance. Et puis sur le retour au télétravail, la ministre du Travail freine, le patron du MEDEF aussi, Geoffroy Roux de Bézieux, contre toute obligation, il le disait ce matin. Quelques 6 000 classes classes sont aujourd'hui fermées à cause de cas de Covid, selon le ministère de l'Éducation nationale, chiffre au plus haut depuis la rentrée. Et les 34 000 maires de France se sont peut-être côtoyés d'un peu trop près la semaine dernière en marge du congrès de l'AMF à Paris. En tout cas, dans le Cantal, 10 édiles sont aujourd'hui positifs.
Le supporter qui a jeté une bouteille sur Dimitri Payet a donc été condamné à 6 mois de prison avec sursis.
Il était jugé en comparution immédiate aujourd'hui au tribunal correctionnel de Lyon. Où vous vous trouvez, Christophe Vincent? Bonsoir. C'est une peine plus légère, hein, Christophe, que les 6 mois fermes qu'avait requis la procureure.
Oui, l'auteur du jet de bouteille ne dormira pas en prison. Le tribunal lui a accordé du sursis, 6 mois avec sursis, avec interdiction de se rendre au stade de l'OL pendant 5 ans. Le Groupama Stadium et auparavant Gerland, ce supporter de 32 ans, y va depuis 15 ans, presque à tous les matchs. C'est un fidèle, mais pas un ultra. L'homme est corpulent, il porte le maillot du Bayern Munich sous son anorak noir. Chauffeur-livreur dans un snack, il n'a qu'une mention à son casier judiciaire, 4 mois avec sursis pour escroquerie. Dimanche soir, il a bu un mélange vodka-Red Bull quand il s'installe à 20 mètres du point de corner au coin du virage nord. À 20h47, il jette la bouteille d'eau ramassée par terre, dit-il. Je n'ai pas visé, je ne voulais pas toucher Payet, un joueur que j'aime bien et je n'ai rien contre l'Olympique de Marseille. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête, explique ce supporter visiblement dépassé par les conséquences de son geste. Je regrette. La procureure réclame une peine exemplaire, 6 mois ferme. Le tribunal ne l'a pas suivi.
Merci beaucoup Christophe Vincent, en direct de Lyon. Le gouvernement qui a promis des mesures pour la sécurité des stades d'ici à 15 jours avec plusieurs axes de travail, la formation des stadiers, la sécurisation et le processus de décision pour arrêter un match. Ça a pris plus de 2 heures dimanche soir pour la rencontre entre Lyon et Marseille après le jet de bouteille. C'est une information France Inter. Le ministre de l'Intérieur souhaite que les femmes sans papiers victimes de violences conjugales soient régularisées, un titre de séjour renouvelable de plusieurs années pour qu'elle n'ait plus peur d'aller porter plainte dans un commissariat. Gérald Darmanin vient d'envoyer la consigne au préfet. C'est un article à lire sur franceinter.fr. Et puis 13 militants du mouvement d'ultra-droite recolonisation ont été interpellés aujourd'hui dans toute la France. Des armes ont été découvertes partout, la plupart détenues légalement. Le groupe qui appelle à la constitution de groupes armés est sous surveillance depuis l'été 2020. Voici à présent un moyen de faire baisser les prix à la pompe et la facture de chauffage. Les États-Unis décident de puiser dans leurs réserves stratégiques. 50 millions de barils de pétrole vont être mis sur le marché pour tenter de faire baisser les cours. Et Washington le fait pour la première fois en lien avec la Chine, l'Inde et le Royaume-Uni notamment. Notre correspondant à Washington, Sébastien Paour.
C'est une loi de 1975 qui permet à Joe Biden de puiser ainsi dans les réserves fédérales de pétrole. C'est déjà arrivé plusieurs fois, notamment en période de crise, par exemple pendant la guerre du Golfe sous l'administration Bush. Au dernier pointage du département de l'énergie, les États-Unis ont 714 millions de barils en réserve dans des stocks souterrains au Texas et en Louisiane. Et si Biden se décide à en utiliser une partie, c'est parce qu'il n'est pas encore parvenu à convaincre les pays producteurs de pétrole d'augmenter leur production pour compenser la hausse de la demande avec la pandémie qui se tasse un peu. Et puis surtout, la pression politique était de plus en plus forte ici aux États-Unis. Les Républicains rendent la Maison-Blanche responsable de la hausse des prix à la pompe. $3,40 le gallon en moyenne aujourd'hui contre seulement $2,11 il y a un an. D'autant que la semaine de vacances de Thanksgiving débute demain, l'une des plus denses de l'année en termes de déplacement. Près de 49 millions d'Américains vont prendre leur voiture pour retrouver leurs proches. C'est 8% de plus qu'en 2020. Washington, Sébastien Paour, France Inter.
L'actualité à l'étranger, ce sont aussi les troubles en Éthiopie. Les combats se rapprochent de la capitale après plus d'une année de guerre entre forces gouvernementales et rebelles. On en parlait tout à l'heure avec vous, Fabienne. La France appelle ses ressortissants à quitter sans délai le pays. Et l'ONU a aussi prévu d'évacuer d'ici jeudi les familles de ses employés internationaux. Et puis après 3 ans et demi de négociations, les 27 et le Parlement européen se sont enfin entendus sur la réforme de la politique agricole commune, la PAC, approuvée ce soir et qui doit entrer en vigueur en 2023. Un budget à près de 400 milliards d'euros pour 4 ans. Le principal changement, c'est que chaque État présentera désormais son propre plan, adapté donc aux besoins locaux des agriculteurs, tout en répondant aux objectifs du pacte vert. La commission contrôlera, mais pour les écologistes notamment, ce n'est pas à la hauteur des enjeux.
Allez, 16 jours, 1 heure, 49 minutes et 16 secondes.
On ne ferait pas mieux pour traverser l'Atlantique.
Mais pas mieux.
Du Havre jusqu'à la Martinique. C'est le temps réalisé par Franck Camas et Charles Caudrelier qui ont franchi la ligne de la Transat Jacques Vabre cet après-midi dans la catégorie ultime. On les appelle les géants des mers, arrivés après les premiers multicoques de 15 mètres. Mais quand même, Jérôme Val, vous qui êtes à Fort-de-France pour France Inter, évidemment, beaucoup de sourires et de bonheur pour le duo français.
Et ça valait bien, Hélène. Trois coups de canon tirés depuis le fort Saint-Louis pour saluer la performance des deux marins, des skippers vraiment très décontractés à leur arrivée au ponton sous un soleil franc. Ils ont blagué, ils se chambraient, tout a bien fonctionné à bord, se félicite Franck Camas.
Je trouve que ça s'est tellement bien passé, ça a été un long fleuve tranquille, même si c'est l'attention de tous les instants. C'est une très longue course, donc ravi d'être... arrivé à 100% du bateau, puis en tête surtout.
Les deux marins naviguent ensemble depuis 2 ans et c'est la première fois, confie-t-il tout à l'heure, que l'entente a été aussi bonne à bord, Charles Caudrelier.
On s'est bien alimenté, on s'est bien reposé. Je crois qu'on a une très grande confiance l'un envers l'autre, donc ça permet quand on va se reposer de dormir tranquillement, de ne pas se poser la question sur la performance du bateau. Là, on a très bien géré, je crois, ce côté-là et donc on arrive en forme.
Avec ce nouveau succès qui ne souffre vraiment d'aucune contestation, les deux marins ont passé 14 jours en tête sur les 16 passés en mer. Leur palmarès s'étoffe encore dans cette transat. 4e victoire pour Camas, 3e pour Caudrelier.
Moi, le principal, c'est d'avoir toujours une victoire de plus que Charles. Donc il faut que toujours je parte avec lui, en fait, sur les Jacques-Vabre.
Voilà, ça chambre vraiment, on vous le disait. On attend maintenant le reste du podium avec François Gabart et Armel Lecléache, peut-être dans un peu plus de 2 heures ici à Fort-de-France.
On suit ça avec vous. Merci beaucoup, Jérôme Val et Sandrine Malon. Qui est avec vous en direct de Fort-de-France en Martinique pour l'arrivée de la Transat Jacques Vabre. L'événement, c'est aussi elle et surtout le titre de son film qui sort demain dans les salles obscures. Audrey Diwan y raconte un avortement clandestin dans la France des années 60, adaptation du roman éponyme d'Annie Ernaux. Une histoire simple et déchirante, Corinne Pellissier.
Sur son dossier, il est écrit « fausse couche ». Au lieu d'avortement, Anne fait partie de celles qui ont eu de la chance à cette époque. Au tout début des années 60, la pilule n'existe pas et l'IVG, pas encore légalisé, est un délit, passible de prison.
Je veux poursuivre mes études.
Venez-vous-en, mademoiselle, nous n'avons plus rien à nous dire.
Qu'est-ce que tu cherches exactement ?
De l'aide.
La loi ne fait pas de cadeaux.
Tu veux finir en prison avec elle ?
En adaptant de manière très organique le roman d'Annie Ernaux, L'événement, Audrey Diwan offre une plongée sans concession dans le quotidien d'une étudiante en lettres, seule contre tous, dans ce drame à la fois intime et social qui n'oublie jamais de montrer la réalité sordide de ces avortements clandestins dans une société figée où il était plus facile de détourner le regard. Filmée au plus près de son combat, la comédienne Anna Maria Bartolomei est la grande révélation de cette histoire qui permettra, elle l'espère, de lever un tabou encore bien trop présent aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle décide de faire ? Avorter et risquer sa vie ou y renoncer et sacrifier sa carrière et son avenir ? Moi, j'ai été nourrie par une très grande colère en fait, parce que, en plus de ça, s'imaginer que cette jeune fille existe encore et que, voilà, peut-être en Pologne, au Texas. C'est terrible en fait, c'est vraiment cruel.
Le sujet bien sûr est difficile, mais Audrey Diwan, dans ses choix de mise en scène et son format carré, ouvre aussi la porte à une réflexion plus large et essentielle sur le thème de l'émancipation de la femme et la possibilité de s'élever.
Audrey Diwan, qui est quand même la 2e française à avoir remporté le Lion d'or à la dernière Mostra de Venise pour ce film, L'événement qui sort demain au cinéma. Et puisqu'on parle récompense, le festival d'Angoulême vient de décerner le prix René Goscinny, dédié à la mémoire du dessinateur, à Madeleine Riffaut pour le scénario de la bande dessinée La Rose dégoupillée, premier tome de ses mémoires de guerre, publié en août dernier, où Madeleine Riffaut raconte son arrivée dans la Résistance à Paris en 1944 à 17 ans seulement. Elle l'a écrite avec Jean-David Morvan, l'auteur qui l'a longuement interrogé. Il était l'invité de Pop 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 le 7 octobre dernier. Si vous voulez réécouter, c'est sur franceinter.fr.
Eh ben, allez-y avec grand plaisir. Merci beaucoup Hélène Philly pour le journal. On se retrouve évidemment demain. Nous, on reste ensemble, c'est le téléphone sonne. Dans un tout petit instant, on parle de confiance en la science. Ce soir, elle reste forte, contrairement peut-être aux apparences. 84% des Français ont confiance en la science. On en parle, on attend vos avis et questions au 01 44 25, 24, 7000. La météo aussi, c'est une science, pas du doigt mouillé, sauf quand il pleut.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes pour hommes, toutes naturelles, cachemire, fil d'Écosse, soie ou coton, et maintenant en lin. Rendez-vous sur bleuforêt.fr.
Et attention aux pluies, justement, vraies pluies sur le Languedoc-Roussillon dès ce soir, Elodie.
Oui, elles deviennent soutenues et orageuses. Elles persisteront demain et puis se décaleront vers la région PACA et la Corse la nuit suivante. Alors soyez prudents, on attend des quantités de pluie importantes, en particulier sur l'Aude, qui est placée en vigilance orange. Le vent d'Est se renforcera demain jusqu'à 80 km à l'heure. En montagne, sur l'Est des Pyrénées, la neige sera conséquente dès 1500 mètres. Sur les autres régions du Sud, ce sera très voilé. Et puis des pluies déborderont sur le Sud-Ouest, sur le Sud du Massif central. En allant vers le nord, là, le soleil devra composer avec la grisaille le matin. Elle sera fréquente entre la Normandie, le bassin parisien et les frontières du nord. Et elle aura parfois bien du mal à se morceler au nord de la Seine, Fabienne.
Et sinon, il fera bien frais, surtout le matin.
Oui, moins 5 à 2 degrés sur une grande partie nord, 4 à 12 tout de même du sud-ouest à la Méditerranée. Et puis l'après-midi, 5 petits degrés à Strasbourg et Dijon, 6 à Paris, 7 à Lille, Angers et Lyon, 10 degrés pour Rennes, pour Bordeaux, 17 à Marseille et on ira jusqu'à 19 à Ajaccio.
Élodie Calac de Météo France, merci beaucoup Élodie.